Notre invitée cette semaine, Roselyne Fèvre, pour un livre qui s'appelle « Les battements du colibri » et le sous-titre « Le combat d'une mère face à l'addiction de son fils » aux éditions du Rocher. Roselyne Fèvre, bonjour.
Bonjour Jean.
Merci d'avoir accepté d'être notre invitée. Vous êtes la chef du service politique de France 24 et vous avez notamment aussi longtemps travaillé pour France 3. Vous avez présenté les Soirs 3, etc. Vous êtes donc une journaliste aguerrie. En prenant le fait d'écrire le livre, pour vous c'était plus compliqué que de présenter un journal par exemple?
Ah oui, c'est tout à fait un autre exercice. D'abord parce que un journal, c'est un travail, c'est quelque chose d'impersonnel. On ne met rien de soi, excepté sa capacité à donner l'information et à bien le faire. Là, il s'agissait de parler d'une histoire personnelle, d'un drame personnel sur l'histoire de mon fils et de la drogue justement, et donc c'était quelque chose d'intime, donc ça n'avait rien à voir.
Alors justement, c'est un livre très intime. Est-ce que c'est facile de se dévoiler comme ça devant des gens qui vont lire votre histoire? C'était facile de faire le pas?
En fait, je me suis pas posé la question de savoir si c'était facile ou pas, parce qu'en réalité j'en avais besoin. C'est-à-dire que quand
une thérapie,
je disais, ce moment... Oui, complètement. C'est-à-dire que c'était écrire pour partager en quelque sorte. Alors partager avec des gens que je ne connaissais pas, mais c'était une façon d'écrire mon histoire, de la partager avec le monde, parce que quand je dis le monde, c'est pas le globe, bien sûr, mais le monde, l'extérieur, parce que j'étais justement en repli, parce que j'avais du mal à être dans la vie, parce que il y avait trop de souffrance, donc j'ai écrit l'histoire, et c'était aussi une enquête à travers l'histoire de mon fils, de notre vie, de la sienne, de la mienne, de notre famille, voilà.
Alors oui, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, et puis aussi de ce qui nous entourait, c'est-à-dire la médecine, la psychiatrie, etc.
Alors, dans cette histoire, c'est donc l'histoire de votre fils que vous appelez Arthur, mais qui s'appelle en fait Romain. Moi, le point de départ, c'était quand vous avez su que votre fils se droguait. C'était des drogues, on va dire, plus ou moins douces, en tout cas au début. Comment vous l'avez su?
Mais en fait, il fumait du cannabis, comme beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui le font à la sortie du collège, ou parfois très tôt, donc la sortie du collège et au lycée. Et au début, on croit que c'est une drogue douce, comme vous venez de le dire. Alors, on m'origène, on n'est pas content, on va dire tu vas être puni si tu continues, arrête, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux, maman, évidemment, sinon tout le monde fume, etc. Donc, il arrive finalement à vous faire gober que le cannabis, c'est une drogue douce et que c'est pas grave du tout. En vérité, c'est pas du tout le cas, parce que sur un cerveau jeune, c'est-à-dire 15 ans, puisque le cerveau est l'organe qui mature le plus tardivement, puisqu'il arrive à maturité à 25 ans. Donc quand vous avez de la fumette assez intensive, et en fonction du taux de THC, c'est-à-dire cette substance psychotrope qui rend stone, le THC qu'il y a dans le cannabis, ça fait des dégâts. D'abord, ça vous rend tout ramollo, vous ne travaillez pas à l'école, et puis ça vous donne envie d'aller plus haut, plus loin, avec d'autres drogues.
Vous n'avez pas de signaux qui vous dit qu'il est parti?
Qui me dit que, pardon?
Que votre fils se drogue énormément? Il n'y a pas des...
Alors j'ai des signaux. Alors déjà, je l'emmène chez le psy, mais il ne veut pas y rester. Chez un addictologue, mais il ne veut pas continuer. Et vraiment, c'est au bout de quelques années, quand il prend un studio avec une petite copine, et que ça se passe mal, en fait, parce qu'ils se séparent. Et là, il y a,
la descente aux enfers.
Oui, la descente aux enfers, c'est là qu'il commence. Et là, il touche à ce qu'on appelle des champignons hallucinogènes, qui se trouvent sur Internet.
Ouais.
Ça fait partie des drogues que les jeunes aiment. Et là commence quand même la descente aux enfers, comme vous dites.
Il ouais. y a quand même quelque chose qui revient régulièrement dans vos discussions avec votre fils, c'est le mensonge de votre fils. Il vous a menti à plusieurs fois, et on a l'impression finalement que vous vous accommodez de ce mensonge. Et vous vous accrochez.
Alors, mais en fait, le mensonge, par moment, vous savez qu'il vous ment, et vous le voyez très bien, et par moment, vous faites avoir.
Ah.
Alors, quelle est la part, dans le fond, d'être content qu'il vous mente pour pas avoir la vérité ? Toujours le problème.
Ouais.
Le mensonge est une citadelle pour lui. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'addicts, hein, que ce soit les alcooliques, les gens mentent.
Mais vous le savez, vous, de temps en temps, vous vous dites que bon...
Non, bah, parfois, je finis toujours par voir qu'il ment. Au début, je le vois pas forcément, mais je finis toujours. Et d'ailleurs, il me dit finalement, tu finis toujours par me griller.
Ouais,
bah oui.
D'accord. Il y a aussi une chose importante, c'est que malgré, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi un point qui m'a interpellé tout au long du livre, que j'ai lu en une traite. C'est une chose que je fais très rarement en général pour un livre. C'est le rôle de la mère. Vous avez été longtemps à vous poser des questions sur votre rôle. Votre rôle de maman, est-ce qu'il fallait aller dans son sens ? Est-ce qu'il fallait le retenir ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce que ce rôle-là, vous y attendez pas ?
Alors, en fait, c'est le rôle de maman. Enfin, une maman, de toute façon, ou un papa, ou enfin des parents, ne sont jamais des parents, comment dire, parfaits, ça n'existe pas. Mmh. On a toujours, nous-mêmes d'ailleurs, des reproches à faire à nos parents, et c'est une longue chaîne qui se répète ad vitam aeternam. Vous êtes parents, vous êtes enfants, vous en voulez à vos parents, et puis une fois que vous êtes parents, vous rendez compte que vos enfants vous en veulent pour certaines raisons.
Enfin, il y a eu un divorce à votre rencontre qui a été un peu compliqué, non, quand même.
Oui, enfin un divorce qui a été d'une banalité, une forme de banalité. Donc, mais quand un enfant vit ça de manière très singulière, et moi j'avais aussi des parents qui avaient divorcé, et je m'étais juré de ne jamais divorcer.
Ah.
Sauf que, oui, la vie vous montre que vous aviez des espérances qui, à un moment, sur un mariage qui n'a pas tenu ses promesses. Donc, vous divorcez parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Et dans le fond, est-ce que vous écoutez suffisamment la douleur silencieuse des enfants quand des parents divorcent ? Et moi, pourtant, je l'ai vécu, donc j'aurais dû le savoir. Mais quand vous divorcez, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le cœur de vos enfants, parce qu'ils ne s'expriment pas toujours. Et en tout cas, chez lui, il l'a vécu de manière plus tragique qu'on ne l'aurait imaginé. Et je pense que ça a dû laisser des traces.
Oui.
Et puis, il y a sa personnalité aussi.
Oui.
Quelqu'un d'hypersensible.
Mmh.
Il y a une hypersensibilité qui a chez beaucoup d'enfants, d'ailleurs, qui d'ailleurs touche à la drogue, comme s'il voulait échapper à une forme de réalité.
C'est ce qu'il dit souvent, votre fils. Parce que c'est ce qu'il a dit lors d'un interview qu'il a eu avec Yann Barthès.
Ouais, absolument. Et ça, je le savais. Je savais, mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui est hypersensible, à part de lui dire de se protéger, Mais bon, ils sont jeunes, donc quand vous avez 50 ans, vous vous rendez compte que vous avez eu une vie, que vous êtes passé par des hauts, des bas, par des formes de compréhension, mais jeune, vous découvrez la dure réalité de la vie.
Mais qu'est-ce qui lui manquait ? Il avait une mère aimante, il avait la stabilité financière de sa maman, il avait une grande sœur, il a un père qui lui aussi de temps en temps s'occupe de lui. Qu'est-ce qui manquait à votre fils pour passer à la drogue ? C'est quoi cette réalité qu'il voulait absolument fuir ?
Il y a beaucoup de choses, et ça, je pense que ça lui appartient. Je pense que l'école n'a pas été quelque chose de facile pour lui, parce qu'il y a des intelligences qui ne s'enferment pas dans des boîtes comme la forme d'intelligence qu'on demande, qui est une forme bien particulière à l'école, d'apprendre par cœur. L'école n'est pas toujours adaptée pour certains profils. comme disait l'autre, là, l'intelligence se fout de la compétition. Vous avez des autres formes d'intelligence, et parfois l'école vous enferme dans un carcan que vous ne comprenez pas, qui vous ne satisfait pas, qui vous nourrit pas. Et il fait partie de ces jeunes-là, je pense, à pas trouver d'épanouissement dans la scolarité.
Les battements du cœur du colibri par Roselyne Febvre aux éditions du Rocher. On va un peu parler de votre livre quand même, de ce qui est dedans. Et c'est finalement pour vous, en fait, vous découvrez le monde de la psychiatrie, le monde des hôpitaux, le monde médical. Et là, on sent vraiment que vous tombez des nues.
Ah bah, je découvre un monde que je ne connaissais pas, qui est l'hôpital psychiatrique, parce qu'évidemment, enfin pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent quel est le lien entre drogue et psychiatrie, en fait, je l'explique très vite, mais lorsque vous prenez de la drogue, ça vient modifier votre état de conscience, ça vient modifier votre cerveau, et ça vient créer ce qu'on appelle parfois des bouffées délirantes, des crises d'angoisse, des crises de parano, voilà, etc. Et tout ça donc va modifier la personne que vous êtes, et vous allez être quelqu'un d'autre en quelque sorte, et avoir des comportements que vous ne reconnaissez pas de vous-même, ou en tout cas moi je ne reconnaissais pas de mon fils. Donc il fait comme je dis le tour des hôpitaux, et à chaque prise de psychotropes ou de drogue, il refait des crises qu'on appelle maniaques. Et il déclare des maladies type bipolarité, en tout cas ce qui est associé à cela.
Alors vous n'êtes pas très tendre avec les hôpitaux pour plein de choses. Vous dites d'abord que l'état des hôpitaux en état, je veux dire, mobilier, c'est un peu limite parce que c'est un peu gris et pas très joyeux. Et puis vous êtes très étonné de ne pas avoir de réponse claire à vos questions. Ça vous a agacé?
Oui. C'est plus qu'agaçant, c'est même très angoissant, parce qu'en fait à chaque fois que vous changez de médecin, vous avez soit pas de diagnostic, soit vous en avez qui se contredisent les uns les autres. Donc il y en a un qui va vous dire non, votre fils est bipolaire, l'autre va vous dire mais non, pas du tout, il est schizophrène. Et l'autre dit mais non, mais il n'est pas schizophrène du tout, il est juste addict à la drogue. Et d'autres vont vous dire qu'il est trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Enfin, voilà. Et puis surtout, les médecins, les psychiatres, même s'ils contiennent, et ça, je, je ne peux pas les critiquer quand on amène un enfant ou un jeune dans un service psychiatrique, parce qu'ils vont contenir la crise. Donc ils vont vous le soigner, mais ils ne vont pas le guérir, parce qu'ils ne vont pas aller chercher la cause, et ils vont donner des médicaments, et on rentre dans un cercle infernal de médicaments, et voilà.
Alors, dans votre livre, ce qui est assez intéressant, c'est que votre fils a des moments de, on va dire effectivement, de folie, et il vous menace même de vous détruire. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous y attendez malgré le fait
Non. Alors, on ne s'attend jamais à ce que un enfant, l'enfant que vous avez, se modifie et devienne quelqu'un d'autre. Et vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup de témoignages, et vous seriez surpris de voir qu'il y a des gens de tout milieu, des gens qu'on croit des gens connus, ou des gens ce soit dans la politique, le journalisme, qui ont des problèmes comme ça, et avec des enfants qui, à un moment, effectivement, peuvent devenir violents. Donc, soit en parole,
soit en acte.
Soit en acte. Moi, c'était plutôt en parole. Mais je peux vous dire qu'il y a des parents qui, parfois, disent que lorsque leur enfant est chez eux, parce que pour telle raison, il est rentré de l'hôpital ou quoi, ils s'enferment à clé dans leur chambre. Parce que la drogue vient vraiment modifier les états, des états d'être. Donc ça peut arriver, bien sûr, et on ne s'attend jamais à un truc pareil, jamais. Non. Et ça, c'est une souffrance abominable de cette impuissance, quoi, en fait.
Alors, dans votre livre « Des battements du cœur du colibri », on le rappelle, édition du Rocher, Rosine Fèvre, il y a une chose qu'on sent énormément dans votre livre, c'est votre solitude. Vous êtes seul devant cet état que vous n'avez pas voulu. Vous êtes seul et ça, on a l'impression que ça vous porte un peu. Vous dites d'ailleurs que cette solitude et ce spleen est carrément vous. Il vous habite. Il est avec vous 24 heures sur 24. Pourquoi ne pas en avoir parlé autour de vous ? Vous connaissez beaucoup de monde.
Mes proches, mes amis, parce que je suis seule. Quand on parle de solitude, je parle plutôt de solitude ontologique, c'est-à-dire que une solitude de l'être, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous me dites, Jean, j'ai horriblement mal à la tête, je vais vous comprendre, mais c'est pas moi qui aurai mal à la tête, c'est vous. Et malgré tout, moi, si je vous aime beaucoup, je ne pourrais pas partager votre mal de tête. Mais en fait, moi, c'était pareil avec mon fils. C'est-à-dire que je souffrais de le voir souffrir. Mais personne ne pouvait souffrir à ma place. J'étais seule à vivre ça. Parce que les amis, ils vous comprennent. Et puis ça détruit tout dans votre vie. Enfin, moi, ça a détruit le couple que j'avais avec un homme. Ça a tout fait exploser. Parce que ce n'était pas son enfant. Bon, le papa, comme vous dites, il est un peu là de temps en temps, pas toujours. Il revient, il repart, parce que c'est trop dur pour lui de vivre ça.
Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? C'est parce que c'était trop dur pour lui, pour son papa?
Oui, je pense. Vous savez, chacun réagit différemment. Chacun réagit comme il peut, en vérité.
Rosine Fèvre, expliquez-moi. Moi, je vous ai suivi souvent en regardant votre journal sur France 3, et vous aviez toujours la pêche, toujours le sourire, toujours le sourire au coin. Je me dis, mais impossible que cette femme-là ait un problème à côté. Comment vous avez fait pour continuer à travailler toujours avec ce professionnalisme, cette pêche, ce sourire? C'est difficile de sourire à des gens quand soi-même on n'est pas très souriant.
Parce que, alors à l'époque du soir, puisque vous évoquiez le soir 3, à l'époque ça n'avait pas commencé, donc je pouvais avoir le sourire. Après, je continue malgré tout sur une autre chaîne qui est France 24, je continue mon métier. Et en fait, c'est comme si je me dédoublais. C'est-à-dire que je jouais un rôle. C'est-à-dire que j'ai la maman souffrante et terriblement malheureuse de ça. Et de l'autre côté, j'ai la professionnelle qui doit faire son métier, parce que vous vous dites, tout peut pas s'effondrer. Votre vie personnelle peut pas s'effondre votre enfant souffre et vous souffrez avec.
C'est un exutoire, un peu le travail.
Ce qui tient debout, c'est le boulot.
Ça vous sortait un peu de votre... C'est ce qui sortait un peu de votre ordinaire qui vous permettait de continuer ?
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, l'ordinaire me rassurait. C'est-à-dire que je pouvais m'agripper à quelque chose qui pouvait me faire m'échapper quelques heures de mon cauchemar, en fait. Parce que quand vous avez votre fils à l'hôpital et vous savez que vous ne pouvez pas lui parler parce qu'il n'est pas dans son état normal, vous faites quoi ? Soit vous tournez en rond chez vous et vous devenez dingue, soit bah, vous faites votre travail. Et même si vous traînez un sillon de tristesse comme ça, quand la lumière s'allume et quand vous êtes à l'antenne,
tout s'oublie.
C'est quelqu'un d'autre en fait qui prend le relais, quelqu'un d'autre de plus fort que vous.
Roselyne,
et puis après, évidemment.
Oui. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est pour ça que il était intéressant, c'est que vous alternez entre le très très sombre et quelquefois des lueurs d'espoir. Ou de temps en temps, on vous dit, bon, il y a ça qu'il faut peut-être essayer, ça qu'il faut essayer. Est-ce que c'est difficile peut-être, en plus d'avoir des lueurs d'espoir, où la vie n'est pas totalement noire comme vous...
Ah oui, mais bien sûr, mais l'espoir, je m'y agrippe, mais c'est que je ne décide même pas d'en avoir de l'espoir, j'en ai.
Ah.
C'est-à-dire, c'est comme le courage, vous savez, le courage, il est lié au cœur. Donc quand vous aimez, vous posez pas la question de savoir si vous avez du courage ou pas, vous l'avez, point. Et finalement, avec l'espoir, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous posez pas la question. Et moi, il est consubstantiel à moi, c'est-à-dire qu'il est en moi, parce que si j'ai pas d'espoir, je peux pas vivre.
C'est ça.
Donc il est toujours là. Et il est indéfectible, et c'est peut-être la part qu'on peut pas détruire en moi, c'est cet espoir-là.
Alors,
il est là.
On ne va pas dévoiler la fin du livre parce qu'elle est très intéressante. Finalement, dans la fin du livre, vous parlez enfin, je dirais, de vous, de votre souffrance à vous, moins celle de votre fils, mais de façon très, très intime, très intérieure. Dans notre tradition, on dit dans tout mal, il y a un bien qui sort. Est-ce
ouais.
que.
Exactement.
Ouais.
Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je dis cette phrase de Nietzsche en préambule, qui est « il faut porter en soi un chaos pour faire naître une étoile dansante ». Et c'est vrai, en fait, on ne se transforme pas dans le bonheur. Quand tout va bien, quand la vie est à long fleuve tranquille, vous n'évoluez pas. Vous roupillez, en fait.
Oui, enfin... Ouais.
Vous roupillez dans le bonheur et vous ne posez pas de questions. Vous dites, voilà, je suis heureuse, tout va bien, etc. Mmh. Qu'est-ce qui vous réveille ? Ce sont les défis, ce sont les épreuves. Et ça, ça vous réveille. Et c'est ça qui vous modifie.
Vous dites dans la fin du livre, vous avez une force que vous ne vous soupçonnez pas. Vous êtes découverte, en fait.
Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. J'ai découvert cette force en moi. Je ne la soupçonnais pas. Et en fait, elle se révèle, effectivement. On dit souvent que les gens se révèlent dans des situations. Souvent, c'est facile de dire « Oui, mais moi, pendant la guerre, j'aurais été résistant. » Oui, oui, bien sûr. Non, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va réagir si un jour, dans une ruelle sombre, on est attaqué. Est-ce qu'on va se défendre ? Est-ce qu'on va courir ? Est-ce qu'on va... avoir peur, est-ce qu'on va être lâche, on n'en sait rien. C'est la grande découverte de la vie, de savoir comment vous allez réagir et qui vous êtes.
Alors, le seul problème dans notre livre, s'il y a un problème, c'est qu'on reste un peu sur sa fin.
Oui.
On aimerait bien avoir la suite de l'histoire.
Oui, mais la suite, genre, elle n'est pas terminée. Donc,
D'accord, encore très longtemps. Il y a un deuxième tome qui est prévu ou pas ?
Figurez-vous que je me pose la question, mais il ne faut pas que je saoule non plus le lecteur.
Ah bah, on ne s'ennuie pas du tout dans votre livre. Il y a 300 pages, mais je vous le dis, en une traite, deux heures de temps, on est dedans, on n'a pas envie d'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, Romain a l'air d'aller mieux.
Oui, parce qu'il y a eu un déclic.
Ah.
Il a eu un déclic avant la sortie du livre, d'ailleurs.
Ah.
Mais en fait, ce que j'aurais aimé... c'est fournir de l'aide, fournir des solutions, en fait. Et je ne sais pas si... Voilà, il y a des parents qui m'ont dit ça m'a énormément aidé de lire parce qu'on se sentait moins seul, parce que votre exemple, ou, voilà. Mais j'aimerais, en fait, j'aimerais agir, mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Ah. J'aimerais parfois être un politique pour dire, ben voilà, il faut faire comme ça, il faut prendre des décisions.
C'est le moment, hein.
Il faut créer des centres, il faut aider les parents.
Mais c'est ce qui manque, c'est des centres.
Mais bien sûr. Ouais. Mais si vous saviez... aujourd'hui, il y a un enfant qui vous sentez que votre enfant est en prise à la drogue, etc. Vous faites quoi? Vous poussez quelle porte?
Et ça vous a manqué, ça
Évidemment, ouais, mais ça manque à tous les parents. Et puis, l'hôpital n'est pas la solution. L'hôpital, il est à un moment
temporaire.
La solution. Temporaire, parce qu'il vient contenir. Mais après, il faudrait des centres intelligents où on ne laisse pas pourrir votre enfant avec des médicaments qui tournent en rond et qui détruit sa vie, son cerveau avec les médocs. Même s'il en faut. Mais qu'est-ce que vous lui faites faire? Vous voyez, c'est-à-dire que l'être n'est plus au centre. Même dans nos vies, on s'en fout, en fait, de ce que vous êtes, de l'intérieur. Ce qui compte, c'est les impérances, c'est la société, c'est croire qu'on fait alors qu'on fait de travers. Est-ce qu'on s'occupe de l'être que sont les malades, par exemple? On s'en fout, ils sont du numéro, on s'en fiche. C'est ça qui est dramatique.
Ouais, mais c'est partout, dans les hôpitaux normaux aussi.
Mais partout.
Partout. Numéro. En tout cas, c'est vraiment très, très touchant, votre livre, Les battements du cœur du colibri, à lire absolument, c'est aux éditions du Rocher. Rosine Fèvre, je ne voulais pas vous quitter sans parler de votre travail. Vous êtes, on l'a dit, chef des services politiques de France 24. L'élection présidentielle va démarrer. À droite, vous voyez qui dans la fameuse bataille que se livrent les 5 candidats?
Écoutez, je ne sais pas, parce que le problème, c'est que lors de ce congrès, il va y avoir, tout le monde va mettre ses forces dedans, c'est-à-dire que toutes les fédérations vont dire à leurs militants, votez pour un tel, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas, je sais que souvent, il y a quelques semaines encore, on auto-désignait, quand on vous parlait avec les gens des Républicains, ils vous disaient, c'est Michel Barnier, c'est sûr que c'est lui, etc. Comme si, vous savez, le vote était déjà fait.
Ouais.
Et lorsque vous regardez les deux débats, vous dites que c'est pas forcément Michel Barnier qui sort du lot.
On parle de Ciotti.
À mon avis,
il
y en a deux qui sortent du lot, c'est Ciotti et Pécresse, que j'ai trouvé plutôt Valérie Pécresse qui s'est bien défendue, qui a été plutôt claire. Alors Ciotti, c'est dans son registre. Hein. Lui, il a choisi un couloir, on va dire, auquel il se tient. Et je l'ai trouvé plutôt, on va dire, la bonne surprise, parce qu'on ne connaissait pas vraiment. On disait, bon, c'est plutôt vraiment la droite de la droite, ce qu'il est. Hein.
Et Zemmour, il va y aller ou pas?
Moi, je crois que c'est un secret de polichinelle, bien évidemment.
Ouais, il va y aller, d'accord.
Je pense. Franchement, je vois mal avoir fait tout ce truc pour finalement dire, je ne suis pas candidat.
D'accord.
Okay. J'ai vu de la lumière, je suis venu faire un petit tour. Non, je pense qu'il sera candidat, mais il fait durer le suspense et c'est tout à son intérêt.
Ah oui, évidemment, c'est tout à son intérêt.
Parce qu'il peut dire des choses qu'il ne pourra peut-être pas dire quand il est candidat. Donc,
En tout cas, je conseille Les battements du cœur du colibri de Rosine Fèvre aux éditions du Rocher. Merci pour ce moment passé avec nous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage. Et vous ferez vos amitiés à votre fils Romain, à qui on pense aujourd'hui. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée.
Merci Jean.
Au revoir.
Merci, bonne journée. Au revoir.